France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons dès le début de ce journal aux États-Unis où la menace de révocation de leur statut fait craindre à quelques 500 000 migrants d'être expulsés du pays. On se rendra également à Kiev et Moscou après que de nouvelles attaques russes ont massivement frappé l'Ukraine la nuit dernière et ce en pleine crispation diplomatique. Dans le reste de l'actualité, on détaillera cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui ce matin a condamné la France pour avoir failli à protéger des mineurs victimes de viols. On s'interrogera par ailleurs sur les raisons pour lesquelles la sidérurgie européenne est désormais laminée par la crise. Enfin, avec notre invité à l'occasion du sommet de la Commission de l'Océan Indien qui se tient aujourd'hui même, on parlera des ambitions contestées de la France dans la région. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on ne compte plus les polémiques. À chaque jour, sa mesure déroutante, sinon fracassante. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec la suppression par ordonnance du statut légal accordé à plus d'un demi-million de migrants, majoritairement latino-américains, sommés de quitter sur le champ les États-Unis, plus précisément dans un peu moins de 30 jours, délai au-delà duquel ils perdront leur protection légale. Alors c'est vrai que le président américain avait promis de mener la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire du pays. En ce sens, sa décision, aussi invraisemblable soit-elle, ne constitue pas franchement une surprise. Toujours est-il que même si cette mesure a été pour l'heure suspendue par la justice, la peur a donc saisi aujourd'hui toute la communauté hispanique aux États-Unis, comme en témoigne ce reportage signé Marie Mollet dans une paroisse de Lawrenceville en Géorgie, qui voit désormais fuir ses fidèles d'origine latino-américaine.
Sur la porte de l'église, les horaires de la messe sont inscrits en espagnol. Le révérend Ventura Ruiz prêche ici tous les dimanches devant une communauté hispanique. Ici, environ 20% des fidèles n'ont pas de papier, dit-il. Et depuis quelques mois, il voit peu à peu les bancs de son église se vider. Ils ont peur de venir. Ils pensent qu'on est une cible. Comme on est beaucoup d'hispaniques réunis tous au même endroit, c'est facile pour la police de l'immigration de venir et d'attendre à la sortie. Dimanche, c'était Pâques. On était 148. L'an dernier, on était 250. Les gens préfèrent rester chez eux. Une crainte nourrie par une nouvelle directive qui autorise depuis janvier les arrestations dans les écoles, les hôpitaux et les églises. Alors à quelques rues, le révérend Fabio Sotelo a mis en place un protocole, dit-il, pendant les offices dans son église. On a des gens à l'extérieur qui surveillent qui vient à la messe, s'il y a des gens qui n'appartiennent pas à la communauté. Et on a défini des zones privées où personne ne peut rentrer sans mandat d'arrêt. Et le révérend Sotelo a déjà vu par le passé des durcissements de la politique migratoire, mais la nouveauté, dit-il, c'est que la rhétorique a changé et que Donald Trump assimile tous les latinos à des criminels.
Un reportage en Géorgie signé Marie Mollet. Face au chaos économique et financier qu'il a lui-même créé, attesté d'ailleurs par les dernières prévisions en forte baisse de la croissance mondiale publiées par le Fonds monétaire international, Donald Trump, toujours lui, avait fini par calmer le jeu cette semaine en annonçant une baisse à venir substantielle des droits de douane avec la Chine, de quoi rassurer hier les marchés mondiaux effrayés par les politiques agressives du locataire de la Maison-Blanche. Une accalmie toutefois de courte durée puisque dès ce matin, toutes les bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge, en cause une avalanche de résultats trimestriels d'entreprises attendus dans la journée.
Et puis c'était là sans compter les déclarations décidément imprévisibles du président américain.
Oui, puisqu'à l'espoir d'un possible sursis donc dans la guerre commerciale avec la Chine a succédé la crainte de voir se prolonger encore la guerre en Ukraine. Hier, Donald Trump s'en est pris violemment à son homologue Volodymyr Zelensky en l'accusant de tenir des propos, je cite, incendiaires sur la Crimée annexée. Comprenez, en refusant simplement de céder la péninsule à son envahisseur, et de fait une telle concession serait totalement suicidaire pour Kiev. En réalité, face à la perspective d'un désastre diplomatique, il semble que Donald Trump cherche désormais surtout à faire porter à Volodymyr Zelensky et son soi-disant entêtement l'entière responsabilité de l'échec jusqu'à présent des pourparlers de paix. En attendant, 9 personnes ont encore été tuées, 70 autres blessées la nuit dernière dans l'une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne. Les précisions depuis Kiev de notre correspondant Stanislas Poyer.
Il est 1h du matin quand une explosion secoue violemment ce quartier de l'ouest de Kiev. Un immeuble résidentiel est frappé de plein fouet. Une femme descend les escaliers en ruine, son bébé dans les bras. Un vieillard balaye déjà les débris devant sa porte. Ivan est soldat. Il habite un immeuble voisin de l'impact. Lui aussi éventré par l'explosion. Il a été blessé.
Tout a explosé vers 1h du matin. Tout s'est effondré dans le bâtiment. J'ai des blessures au visage, aux bras, aux jambes.
Derrière les rubans de sécurité, les équipes de secours s'activent, secondées par les chiens renifleurs. À quelques mètres de là, Tania, 24 ans, ingénieure, regarde fixement l'immeuble éventré. C'est là qu'elle habitait.
Il y a eu 3 fortes explosions et la moitié de l'appartement a été soufflée.
Tania raconte les vitres qui volent en éclats, le chaos dans l'escalier, son petit frère qu'elle parvient à retrouver au milieu des gravats. Mais parmi leurs voisins, tous n'ont pas eu cette chance.
Nous savons déjà que la moitié de la famille est morte, mais l'autre moitié est toujours recherchée.
Le choc est d'autant plus grand que rien ici ne semble justifier une telle attaque.
Autant que je sache, il n'y a aucune installation militaire, aucun équipement, rien. Pourquoi ? Je ne peux pas l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer.
Ici comme ailleurs, les Ukrainiens peinent à comprendre comment la trêve proposée par Donald Trump pourrait avoir le moindre sens alors que les missiles russes frappent encore les civils.
Un reportage à Kiev signé Stanislas Poyer. Alors on vient de l'entendre, l'armée de l'envahisseur n'a visiblement aucune intention de restreindre son offensive, mais le Kremlin jubile, qui plus est devant les propositions et même les exigences imposées par les États-Unis à l'Ukraine, très largement favorables à la Russie. Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tronchet.
La phrase de Donald Trump selon laquelle la Crimée est en réalité perdue depuis longtemps pour l'Ukraine n'est évidemment pas passée inaperçue à Moscou. C'est exactement la position de la Russie, a commenté le Kremlin ce matin, qui constate par ailleurs qu'il y a des désaccords entre d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Ukraine et les Européens. Officiellement donc, la présidence russe n'en fait pas trop, mais ce matin à Moscou, la presse salue les déclarations du président américain. Pour les tabloïds pro-pouvoir, Trump a dit à Zelensky « Arrêtez de dire que la Crimée n'est pas russe, sinon vous perdrez toute l'Ukraine. » Certains experts estiment même qu'il s'agit du début de la fin et que les USA pourraient bientôt cesser d'envoyer des armes à l'Ukraine, ce qui ferait basculer la situation sur le front. Tout cela est la faute de Zelensky, disent plusieurs dirigeants russes, comme l'ancien président Dmitri Medvedev ou la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui vont jusqu'à suggérer que le président ukrainien est sous l'emprise de la drogue. Moscou qui attend maintenant le retour de Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, qui devrait rencontrer peut-être demain, une quatrième fois, Vladimir Poutine. Rien n'a filtré en général de leurs discussions, mais après chacune de ces rencontres, la position du président américain a semblé toujours un peu plus proche de celle de Moscou.
Alors, nul doute qu'en pleine turbulence mondiale, la question de trouver une issue au conflit sera à nouveau discutée samedi prochain en marge des funérailles du pape à Rome, puisqu'au-delà d'organiser des adieux au souverain pontife, ses obsèques prennent chaque jour un peu plus des airs de véritables sommets diplomatiques en présence notamment de Donald Trump et Volodymyr Zelensky. En attendant, larmes et sourires se mêlent toujours à la foule nombreuse des fidèles catholiques qui continuent d'affluer aujourd'hui encore sous les ors de la majestueuse basilique Saint-Pierre Vatican, au cœur de la ville éternelle, pour se recueillir devant la dépouille du pape François.
Première visite d'État d'Emmanuel Macron sur la Grande Île. Le président français est à Madagascar à l'occasion du sommet de la Commission de l'Océan Indien.
Une 5e édition prioritairement consacrée à la question de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, un thème a priori plutôt consensuel. Mais comme souvent en pareilles circonstances diplomatiques, les négociations en coulisses ou en marge de l'événement seront au moins aussi cruciales et autant scrutées que les discours à la tribune. Car ce sommet donnera évidemment l'occasion à chaque pays de faire valoir ses vues à la fois économiques et stratégiques. L'occasion par exemple pour la France de défendre la position d'influence qu'elle exerce dans cette région du globe, ce qui n'est pas forcément pour plaire d'ailleurs à tout le monde, et notamment tous ceux qui aimeraient voir au contraire reculer la place occupée par l'ex-puissance coloniale. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Olivier Vallée, économiste et consultant en géopolitique, contributeur régulier à la revue Grand Continent. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Parmi les possibles points de crispation, voilà plusieurs jours que divers responsables français réclament l'intégration de Mayotte à cette commission donc de l'océan Indien, ce que refusent en l'occurrence les Comores. Pour quelle raison Emmanuel Macron souhaite-t-il faire entrer l'archipel dans cette alliance ?
Les Comores sont un archipel, mais Mayotte est une île. Est une île qui appartient à l'archipel des Comores, et pour Emmanuel Macron et la position de la France qu'il tente à formaliser aujourd'hui, l'association de Mayotte à la Commission de l'océan Indien, d'une certaine façon, légaliserait le fait que cette île a été retirée à la République des Comores, qui comprend 4 îles, et que cette République des Comores, sur laquelle nous avons un passé assez lourd, puisque Bob Denard, agent des services français, y a exercé une forme de dictature pendant quelques années, retrouverait ainsi une légitimité complètement contestée par les Comores et une bonne partie de la communauté internationale.
Les conflits liés à des revendications territoriales ne s'arrêtent pas à la question de Mayotte, en l'occurrence, plus au sud, dans le canal de Mozambique. Madagascar demande, elle, le rattachement de 3 petits territoires qui appartiennent aujourd'hui aux îles éparses, autant dire des confettis dans l'océan Indien. Qu'est-ce qui justifie un tel intérêt? Est-ce que cela tient à leur positionnement géographique sur l'une des principales routes commerciales de la planète, ou bien ces îles ont-elles d'autres ressources convoitées?
Ces îles sont comme Mayotte, ce sont des porte-drapeaux plus que des porte-avions. Donc il s'agit véritablement d'enjeux aujourd'hui qui sont parfaitement symboliques, parce que la France n'aurait aucun moyen de s'assurer la conservation de ces îles éparses, qui sont plus de 3 d'ailleurs, si jamais elles prétendaient maintenir sa souveraineté par la force. Donc c'est véritablement parce qu'il a été créé, en grande partie conforté par le président Macron, un grand ensemble qui s'appelle les Terres australes, donc ce sont les îles éparses, mais aussi la Réunion, et Antarctique française. Donc la France voit un continuum qui commencerait, je dirais, au nord de Madagascar et qui va jusqu'à l'Antarctique, d'un immense territoire maritime qui lui donne une influence maritime étendue qui, bien entendu, excède la valeur stratégique de ces quelques îlots dans le canal du Mozambique.
Vous évoquiez des porte-avions tout à l'heure. C'est vrai que les intérêts de la France dans la zone ne sont pas seulement guidés par des considérations économiques, mais aussi militaires. Ces dernières années, Emmanuel Macron a beaucoup développé une stratégie qui repose sur la présence française dans cette région et en Océanie, notamment via la Nouvelle-Calédonie. Diriez-vous que la France se représente aujourd'hui comme une sorte de gendarme naturel de cette commission?
Il y a vraiment des milliers de kilomètres entre la Nouvelle-Calédonie et Mayotte et Madagascar. Donc on est quasiment sur 2 continents différents. La France ne peut compter jouer aucun rôle dans le Pacifique. Elle a été éjectée de l'association AUKUS avec le refus par l'Australie d'acquérir les sous-marins français qui lui étaient proposés. Et par contre, elle essaie sur la partie sud-ouest de l'océan Indien qui longe le canal de Mozambique et qui comprend Madagascar, Maurice, etc., de se présenter comme un élément de la sécurité. Mais elle n'est qu'un élément, je pourrais dire, d'évaluer. C'est un océan qui est beaucoup plus important comme zone à couvrir que le Sahel, sur lequel la France avait mis d'énormes moyens, soit 5000 hommes, des moyens aériens, des moyens également de logistique très lourds, sans aucun succès. Donc le gendarme français serait aussi inefficace dans cette zone s'il prétendait régler quelques conflits. Je vous donnerai simplement un exemple, c'est l'exploitation d'un immense gisement d'hydrocarbures auquel Total procède sur la partie nord du Mozambique, donc qui longe le canal du Mozambique. La France n'a pas été capable de défendre ce complexe qui est attaqué par une insurrection qu'on dit islamiste, mais il a fallu faire venir des contingents rwandais après avoir essayé des contingents sud-africains pour défendre ce complexe. Donc là, le véritable gendarme de la zone, c'est l'Afrique du Sud, mais c'est également un gendarme impuissant et il faut des mercenaires spécialisés comme les Rwandais pour remplir ce rôle.
Et on terminera par ces mots. Merci Olivier Vallée, économiste, donc consultant en géopolitique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Dans une sidérurgie européenne en crise, l'annonce d'hier a été reçue comme un véritable coup de massue.
Oui, ArcelorMittal envisagerait quelques 600 suppressions d'emplois dans le nord de la France. Un plan d'économie qui toucherait notamment les postes support délocalisés, mais aussi la production dans les 7 usines du groupe basées dans l'Hexagone. Et ce, à la grande surprise donc des syndicats. Si on veut tuer une entreprise, on ne peut pas faire mieux, a réagi amer hier le secrétaire général de la CGT, ArcelorMittal. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour.
ArcelorMittal est aujourd'hui le premier groupe sidérurgiste européen et le deuxième mondial. Il est qui plus est massivement aidé par l'État français avec près de 300 millions d'euros d'aides reçues en 2023, une promesse d'investissement public de 850 millions supplémentaires. Qu'est-ce qui justifie, Wafia, ces suppressions de postes?
Alors avec des délocalisations en Inde ou au Brésil, une production de l'acier chinois qui inonde les marchés, une chute de la production de 15% avec la crise de l'énergie et la guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement la France qui est concernée mais toute la production européenne. L'Europe, qui a pris beaucoup de retard dans la transformation de la sidérurgie, elle est face à un paradoxe, produire de l'acier décarboné sans avoir suffisamment d'électricité pour le faire, car produire de l'acier, cela pollue énormément. La sidérurgie représente à elle seule 10% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la planète. Dans toute l'Europe, on a laissé se dégrader les unités de production sans investir suffisamment. Sur ce marché ultra compétitif, l'acier produit en Asie notamment coûte beaucoup moins cher, le risque existe donc de voir les investisseurs se tourner vers des marchés plus prometteurs économiquement dans les prochaines années. L'Union européenne dans son ensemble continue d'afficher des velléités de production d'acier dite décarbonée, mais en attendant, la chute de la production est telle que cet exportateur d'acier historique est désormais importateur. De l'autre côté de la Méditerranée, notamment en Algérie, le géant turc de la sidérurgie, Tosyali, multiplie les lieux de production et fabrique de l'acier vendu notamment aux Italiens. Pour le moment, seule la Scandinavie a réellement les moyens de produire suffisamment d'énergie grâce au développement d'un mix énergétique performant. Deux projets sont actuellement en cours en Suède, l'un public, l'autre privé. L'acier est fabriqué grâce à la production d'hydrogène, une énergie qui produit beaucoup de CO2 et qui coûte très cher.
Merci Wafia Kenich.
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce matin la France pour avoir échoué à protéger trois mineurs qui dénonçaient des viols.
Oui, les trois victimes âgées de 13, 14 et 16 ans au moment des faits avaient toutes tenté de faire condamner leur agresseur en vain. Or, dans chacune des trois requêtes, les juges estiment que les autorités ont failli dans leur appréciation de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les trois jeunes filles, eu égard à leur minorité. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Thomas.
En l'occurrence, les trois requérantes avaient notamment saisi la CEDH pour avoir enduré une victimisation secondaire lors de la procédure judiciaire et pénale.
Oui, c'est le cas notamment de Julie, qui avait dénoncé des viols commis par plusieurs pompiers lorsqu'elle était adolescente. Des faits requalifiés en atteinte sexuelle sur mineurs par la justice, qui avait pointé le comportement entreprenant et provocateur de la victime. Alors pour son avocat, Maître Emmanuel Daoud, cette condamnation de la CEDH vient donc confirmer la victimisation secondaire subie par sa cliente tout au long de la procédure.
Il y a eu par exemple des décisions de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles où on a eu des stéréotypes de genre du style « les sapeurs-pompiers ont un prestige auprès des femmes ». Il n'est pas donc pas étonnant que Julie, âgée de 13, 14, 15 ans, ait été attirée par eux. Comme elle était d'une sexualité, je cite expressément, d'une sexualité débridée, cela n'a pas incité à la réflexion des sapeurs-pompiers concernés. C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion des choses. Une jeune adolescente s'est retrouvée accusée par des juges d'avoir une sexualité débridée. Et donc, ses agresseurs, les pauvres petits, n'ont pas pu se rendre compte de ce qu'ils devaient faire face à cette adolescente.
Mais la CEDH pointe également les manquements de la France eu égard aux exigences résultant de sa jurisprudence et à la lumière des standards internationaux d'appliquer un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis, ce qui est une véritable avancée selon la juriste Catherine Lemagresse.
Il condamne la France à la fois sur une défaillance du droit français, sur une défaillance de l'application du droit français et sur une application stéréotypée du droit. Donc stéréotypée, ça veut dire qu'il y a bien un sexisme systémique qui infuse lors de l'application du droit et dans la conceptualisation même du droit français.
Voilà pourquoi cet arrêt pourrait avoir des répercussions sur le traitement en cours des affaires de violence sexuelle en modifiant la ligne de conduite des magistrats.
Merci Julie Paco. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi avec un ciel variable sur la majeure partie du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.